François Mattei, bonjour.
Bonjour.
Mon ambition, c'est de revenir chez moi, vous dit Laurent Gbagbo. Est-ce à dire qu'il est convaincu qu'il sera acquitté d'ici le début de l'année prochaine ?
Il a une forte propension à le penser, parce que de toute façon, les événements tels qu'ils se déroulent à la CPI le poussent à espérer vraiment concrètement cette fois. Vous savez qu'il y a une audience ce 13 décembre pour une libération conditionnelle. Voilà.
Et quand Laurent Gbagbo dit « pour m'empêcher de rentrer chez moi », sont-ils prêts à l'illégalité ? À qui fait-il allusion ?
Il fait certainement allusion à M. Ouattara, au régime en place, qui pense que peut-être on prendra des mesures, on fera des choses pour qu'il ne passe pas la frontière.
S'il est acquitté.
S'il est acquitté, ou s'il a la possibilité de... Parce que pour l'instant, on parle là, à l'heure qu'il est, d'une libération conditionnelle. Quelles seront les conditions ? Aujourd'hui, on n'en sait rien.
Et il dit « j'espère retrouver ma maison dans mon village natal
»,
c'est-à-dire à Mama, près de Gagnoa.
Il y a fait changer, il a fait acheter des matelas, puisqu'on lui a volé ses matelas, et un petit frigo qu'on lui avait aussi subtilisé. Donc voilà, il pense de façon très concrète, il se revoit là-bas. Oui.
Alors il montre un profil bas, mais en même temps, il va plus loin, puisque à votre question « avez-vous le projet de redevenir président en 2020 ?», il répond « il n'est pas indispensable d'être président pour faire de la politique et se rendre utile. La Côte d'Ivoire, l'Afrique, c'est ma vie et je serai toujours concerné par leur destin. »
C'est évident. La vie de Gbagbo et son destin politique et sa carrière politique se confondent totalement. Il n'y a aucune différence entre l'homme, pratiquement, et l'homme politique, dans son cas. Il a été opposant et politique à 20 ans, il l'est toujours, il ne changera pas. Et il est profondément concerné, d'abord par le sort de son pays, c'est-à-dire la souveraineté de son pays, et puis celui de l'Afrique, au-delà de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a, et on lui a reproché en disant que c'était un illuminé, mais pas du tout. C'est quelqu'un qui a eu une haute conscience de sa mission. Il pense qu'il a une mission pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Et il le prouve, puisqu'il la maintient pendant son incarcération. 7 ans de prison, ça ne l'a pas guéri, si on peut dire.
Donc il n'exclut pas d'être candidat à la prochaine présidentielle ?
Sans doute pas. Il ne l'a pas dit ouvertement, évidemment. Mais quand il dit qu'il veut jouer un rôle politique, on peut le supposer fortement.
En tout cas, à votre question, avez-vous le projet de redevenir président en 2020 ? Il ne dit pas non.
Non, il ne dit pas non. Mais Gbagbo ne dit jamais non.
Alors après le décès le mois dernier d'Abdourahmane Sangaré, le président par intérim du FPI, Laurent Gbagbo ne lui a nommé aucun successeur. Il s'est attribué depuis sa prison de La Haye une présidence de plein exercice. Est-ce à dire que s'il est acquitté, il est déterminé à redescendre dans l'arène politique ?
Évidemment. Gbagbo redescendra dans l'arène politique et on peut considérer qu'il ne l'a jamais quitté, puisque quand on lui demande comment il fait pour tenir à l'âge qu'il a en prison pendant 7 ans, c'est très simple. Il a intégré la prison dans son combat politique, donc il ne l'a jamais quitté.
Alors en tant que deuxième vice-présidente du FPI, juste derrière Abdourahmane Sangaré, Simone Gbagbo espérait logiquement devenir la nouvelle présidente par intérim. La suppression de ce poste, est-ce un signe de défiance peut-être de Laurent Gbagbo à l'égard de Simone Gbagbo ?
Nous n'en avons pas parlé, je dois dire, parce que j'attendais moi personnellement qu'il m'en parle, parce que c'est particulièrement sensible entre Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo, parce que je rappelle que Simone Gbagbo n'est pas que Madame Gbagbo. Simone Gbagbo n'est pas une première dame. Simone Gbagbo est une militante politique, c'est une femme forte qui existe en tant que telle. Elle n'a besoin de personne pour exister. Donc je ne sais pas où ils en sont à ce niveau-là. Mais je pense, moi, qu'ils entendront, de toute façon. J'en suis persuadé.
Plusieurs commentateurs parlent quand même d'une crise de leadership à la tête du FPI en ce moment.
C'est certain. Le patron du FPI est en prison, aujourd'hui, à l'heure où on parle. Et puis, Simone Gbagbo, effectivement, n'a pas accédé aux responsabilités, évidemment. Il y a un problème, certainement. Mais enfin, qu'il a aussi certainement anticipé, parce que c'est quelqu'un qui anticipe. Donc je pense que la solution de ce problème est déjà trouvée.
C'est-à-dire que peut-être Laurent Gbagbo a-t-il dit « Allez, je prends toute la présidence du FPI pour calmer les choses en dessous de moi. » C'est ça.
Je pense que c'est une façon aussi de geler un peu les choses, de les calmer, effectivement, et d'attendre des événements qui permettent de remettre une dynamique politique sur le terrain.
L'amnistie prononcée au mois d'août dernier par le président Ouattara au profit de 800 personnes, dont Simone Gbagbo, précisément. Qu'est-ce que cela a inspiré à Laurent Gbagbo ?
Ça ne l'a pas bouleversé, dans la mesure où il trouvait que c'était parfaitement injuste, la situation de ces gens-là, et de Simone en particulier. Il n'a pas eu envie de dire merci. Il se trouve que petit à petit, peut-être, sous la pression des événements, parce que la situation en Côte d'Ivoire n'est pas si rose qu'on peut le croire. En Côte d'Ivoire, ça va très mal. Voilà. Donc, sous la pression des événements, ils font des concessions.
Donc, il n'a pas pris ça comme un geste de réconciliation ?
Je ne pense pas. Je pense que c'est une concession à l'air du temps et à la pression ambiante.
Un signe de faiblesse ?
Oui, pour faire face à une situation qui n'est plus cette espèce d'état de grâce qui a suivi l'accession de Ouattara, soutenue par la France. Donc, cet état de grâce est terminé. Pour ceux qui connaissent l'état de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il est plus que terminé, parce qu'il va y avoir des problèmes graves, je pense. Et donc, oui, ce sont des concessions sous la pression des événements et des désamours, je pense, nombreux au sein de la communauté internationale, en France notamment, et sans doute aux États-Unis.
La fin de l'alliance électorale entre le PDCI et le RDR, la volonté d'Henri Conan-Bédier d'aller à la prochaine présidentielle face à un candidat RHDP, est-ce que c'est un sujet qui intéresse Laurent Gbagbo ?
Oui, vous savez, j'ai coutume de dire que ces gens-là, je parle de la Sanoa Ouattara, de Conan Bédier et de Gbagbo se connaissent depuis toujours. Ils se connaissent mieux, eux entre eux, que nous ne les connaissons. Donc, je pense que ça ne l'émeut pas non plus. Je pense que, vous savez, avec Bédier, pendant l'élection, je pense que Bédier l'a un petit peu trahi, dans la mesure où Bédier et Gbagbo communiquaient pendant l'élection, notamment au deuxième tour, en 2010, et que Bédier a choisi, ou en tout cas était contraint, peu importe, d'aller de l'autre côté. Dans les rapports humains, je pense que Gbagbo est assez doué, et je pense qu'avec Bédier lui-même, il s'entendrait d'ailleurs. Mais ce qui compte pour lui, à ses yeux, oui, c'est l'électorat, bien sûr.
Et peut-être aussi tous ces dignitaires du PDCI qui lui ont envoyé des messages, ouais, voire même sont allés lui rendre visite dans sa prison.
Oui, vous savez, Gbagbo représente en Côte d'Ivoire, là aussi qu'on le veuille ou non, peut-être le seul consensus qui existe. C'est-à-dire qu'il rassemble des gens qui sont de différentes obédiences, de différentes religions, différentes provenances ethniques. Il avait réussi cette chose-là.
Dans votre livre Entretien, Laurent Gbagbo égratigne aussi quelques figures politiques africaines qui sont à ses yeux trop proches de la France post-coloniale. Du Burkinabé Blaise Compaoré, il dit « Le temps est venu de construire enfin nos indépendances dans nos pays d'Afrique francophone. Il y a aujourd'hui une opinion publique en Afrique. Au Burkina, Blaise Compaoré a été chassé par son peuple. »
Oui, bah c'est un fait.
Il règle un peu ses comptes, non ?
Oui, oui, peut-être. Bah, il en a souffert, cet homme-là. Bon, règlement de compte, je trouve que c'est un grand mot. Une des caractéristiques de Gbagbo, j'ai remarqué en 15 ans, pratiquement 15 ans, je ne l'ai jamais entendu dire quelque chose de très très méchant, même contre les gens qui lui ont fait énormément de mal. Je parle de Ouattara, de Compaoré. Il a parfois l'ironie un peu dure, mais c'est tout. Non, bah, c'est un fait. Compaoré a été chassé. Compaoré a été, à un moment donné, la plateforme, notamment pour l'envahissement de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pas rien.
Donc il vous parle souvent hein, de Blaise Compaoré.
Plus maintenant, non. Je considère que c'est du passé, justement. Non.
Et du Gabonais Ali Bongo, Laurent Gbagbo dit « Je dérangeais les Français parce que j'étais populaire. Que les Français s'occupent d'Ali Bongo, qui n'est rien, même dans son propre pays. » C'est pas gentil, ça.
Mais c'est vrai. Vous savez, si on tient compte de la réalité des résultats des élections, M. Bongo n'est plus là. Enfin, on le sait. Bon, en plus, il est pour lui l'image caricaturale de l'abandon de toute souveraineté contre un siège doré et des villas et des jets privés. Bon, voilà. Donc c'est pour lui la caricature et il est emblématique de ce que les chefs d'État africains ne doivent pas être et ont été trop longtemps et continuent parfois d'être. Voilà. Et il ne veut pas être confondu avec ces gens-là.
Alors théoriquement, la Cour pénale internationale interdit aux gens qui sont dans sa prison de donner des interviews. Est-ce que ce n'est pas une prise de risque pour Laurent Gbagbo de vous parler ?
Bah, je ne sais pas. En tout cas, ça dure depuis 2012 et on m'avait dit que je ne prendrais pas de notes, qu'il fallait que je note tout mentalement. Bah, j'ai emprunté du papier aux gardiens de prison, j'ai emprunté leur stylo et j'ai tout noté. Donc je ne sais pas. Et je suis retourné après la publication du premier livre et j'ai eu aucun problème. Et j'y retourne fréquemment. Voilà.
La dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand ?
En octobre, là.
Au moment des audiences de demande d'acquittement, là.
Oui, et il n'y a jamais aucun problème. J'ai même d'excellentes relations avec l'administration pénitentiaire. C'est-à-dire qu'on s'appelle par nos prénoms, ils me connaissent maintenant. Ce que je dois vous préciser, c'est que Gbagbo a une image particulière à la prison. Il a fini par, j'allais dire, convaincre par son attitude, son calme, c'est quelqu'un qui est toujours calme, sa politesse, etc. Tous les gardiens qui, au début, j'ai vu la transformation de l'entouragement, ils avaient affaire à quelque chose comme Pol Pot. Au fur et à mesure, ils m'ont même fait, ils se sont permis de faire des remarques quand ils m'accompagnaient dans les couloirs pour me dire que c'était un good guy, un bon garçon. Bon, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui, finalement, on dit qu'il roule tout le monde dans la farine. C'est pas ça, c'est qu'ils ont vu que c'était pas un violent. Ça se voit.
Alors, il y a l'administration pénitentiaire, mais de l'autre côté, il y a des juges qui, eux, peuvent peut-être estimer qu'une interview, ce n'est pas très légal.
Oui. Jamais eu de réaction. Jamais.
Donc, Laurent Gbagbo et vous assumez.
Tout à fait. Tout ça se fait de façon très ouverte.
François Mattei, merci.